l'idée que j'ai, mon intuition, c'est qu'une grande partie des difficultés de l'enseignement de l'économie en SES, mais je pense qu'on pourrait dire la même chose de la sociologie, mais c'est pas mon terrain, donc je resterai plutôt sur l'économie, tiennent à l'histoire des SES. Et cette histoire des SES, aujourd'hui, plus personne ne la connaît, tout simplement parce que les pères fondateurs sont morts, et que je dois être l'un des dernières générations, même pas du début, qui plus est. Et je me suis dit que c'était peut-être important, pour, notamment pour des étudiants aujourd'hui et pour des professeurs, de savoir d'où viennent les SES, pour comprendre les problèmes auxquels les SES sont confrontés. Alors, à l'origine, donc, les SES, ça émerge en 1964. Hein, c'est la fameuse réforme Fouché, hein, réforme qui va être présentée à l'Assemblée nationale à la rentrée 66, avec la création de 200 classes expérimentales. Et donc, la voie B, qui va être créée en 65-66, en réalité, qui introduit un enseignement d'économie, c'est pas tout à fait nouveau, puisqu'il existait une voie technique économique qui était la voie B'. Et évidemment, la différence, c'est que la voie B est une filière d'enseignement général. Et une partie des programmes qui vont être conçus ont pour objectif de s'écarter de ce qui va être enseigné en B'. Et déjà, là, il y a un problème qui est encore récurrent aujourd'hui, c'est que l'entreprise disparaît. Puisque l'entreprise avait enseigné en B', aujourd'hui en sciences de gestion, hein, mais sera complètement inexistante dans l'enseignement de sciences économiques et sociales. Par exemple, moi j'ai toujours été frappé, alors, en plus je suis auteur de manuel, donc j'ai toujours été frappé qu'il n'y a aucun bilan dans aucun manuel de sciences économiques et sociales. Aucun bilan d'entreprise. Ce qui est quand même assez étonnant, quoi. On fait, par exemple, de l'économie financière, enfin, à petit niveau, bien évidemment, sans jamais parler d'un bilan, ce qui est assez fascinant. Hein. Mais ça tient aussi un petit peu à l'origine. Alors donc, on est en pleine période des Trente Glorieuses, il faut moderniser le lycée. J'ai retenu cette phrase de Christian Fouché, « Adapter l'enseignement au devenir que lui impose l'évolution de la société et le développement des savoirs ». Et donc, notamment, l'économie commence à être un peu partout, et il faut développer donc un enseignement d'économie. Et pour soi, Christian Fouché va désigner quelques hommes. Il va désigner d'abord un historien, Charles Morazet, qui a collaboré avec Fernand Braudel à l'École pratique des hautes études, et qui va travailler avec deux de ses amis, Marcel Roncaiolo et Guy Palmade. Alors, je vous ai mis rapidement des petites bibliographies de chacun des individus. Ça situe un peu les personnages. Hein. Charles Morazet, c'est quelqu'un qui va participer à la création de la 6e section de l'École pratique des hautes études, la section sciences économiques et sociales. Et c'est quelqu'un qui fera le va-et-vient entre la politique, puisqu'il a été au cabinet du président du Conseil en 58, au moment du retour du général de Gaulle, et l'enseignement et la recherche à travers l'école des hautes études en sciences sociales. J'ai remis une petite note en bas pour préciser d'où est née l'école des hautes études en sciences sociales. Donc son objectif, c'est la recherche et la formation à la recherche dans les différentes sciences sociales. Et elle a succédé à l'école libre des hautes études qui avait été fondée en 1942 à New York par tout un apanage, dont Claude Lévi-Strauss, dont Gustave Cohen, et qui était dirigée par Alexandre Coiré. C'est une institution universitaire qui a regroupé les chercheurs français francophones qui étaient en exil aux États-Unis à cette époque-là. Alors, parmi les grands noms, il y a Marcel Roncaiolo, bien évidemment. Hein. Marcel Roncaiolo, donc, vous voyez, tous ces gens-là tournent autour de Normale Sup, tournent autour de l'école des hautes études en sciences sociales et tournent autour de l'école des annales. Ce qui situe assez bien. Hein. Donc, Marcel Roncaiolo, ancien élève de l'école supérieure, Normale supérieure, donc, promotion 1946, qui a tenu pendant de longues années un séminaire commun avec Louis Bergeron, à l'école des hautes études en sciences sociales, qui est un historien de la ville industrielle et qui a travaillé avec Guy Palmade, donc historien de l'économie, à la construction des premiers programmes de SES en 1967. Alors Guy Palmade, c'est études secondaires au lycée d'Auch, élève de prépa au lycée Fermat. Et on retrouve toujours la même logique. Hein. Lui aussi, il a fait le va-et-vient entre la recherche, l'éducation et la politique, puisqu'il a été conseiller technique au cabinet d'Olivier Guichard, quand Olivier Guichard était ministre de l'Éducation nationale. Et il a été directeur de l'Institut national de recherche et documentation pédagogique, l'INRDP. Et il a été le premier doyen du groupe des sciences économiques et sociales entre 1976 et 1992. C'est un groupe d'inspecteurs généraux au sein de l'inspection générale. Ils sont par groupe de matière. Et donc l'un des grands bonhommes, ça a été évidemment Louis Bergeron. C'est pour ça que je lui ai consacré un petit peu plus de temps. Donc Louis Bergeron, c'est quand même un cas, hein, intégré Normale Sup à 18 ans. Donc belle tête, beau parcours. Donc où il nourra des solides amitiés avec Marcel Roncaiolo et Guy Palmate, ses amis de toujours. C'est quelqu'un qui a participé beaucoup donc à la définition des premiers programmes de SES, et c'est quelqu'un dont l'épouse, et là on va voir que c'est un peu ambigu tout ça, donc Huguette Bergeron, est considérée en général comme une des mères fondatrices de SES. Vous cherchez tous ces noms-là sur le site de l'APSES, vous ne les trouverez pas, sauf un. Huguette Bergeron. C'est Huguette Bergeron a été fondatrice de la fameuse association des professeurs de sciences économiques et sociales. Elle a porté donc sur les fonds baptismaux les SES. Ça a été l'une des premières professeurs d'ailleurs de SES au lycée de Sèvres. Tout ça tournait autour de tous ces gens-là tournaient autour de l'école des Annales. C'est important d'avoir ça en tête. Hein. Pardon pour ceux pour qui tout ça est évident, ceux pour qui ça l'est peut-être moins. Je précise que l'école des Annales donc tire son nom d'une revue qui s'appelait Annales d'histoire économique et sociale, qui a été fondée en 1929 par deux historiens, un moderniste, Lucien Febvre, et un médiéviste qui était Marc Bloch. Leur idée, c'était de rompre avec l'histoire événementielle, rapprocher la méthode historique de celle des sciences humaines. Il y a une phrase qui résume assez bien la démarche de l'école des Annales, c'est qu'il y a un ouvrage très célèbre de Fernand Braudel qui s'appelle « La Méditerranée ». Et la différence avec peut-être l'historiographie traditionnelle, c'est que l'historiographie traditionnelle s'intéresse aux grands personnages de la Méditerranée, c'est Philippe d'Anne Méditerranée, alors que l'historiographie de l'école des Annales s'intéresse à la Méditerranée du temps de Philippe II, une sorte de renversement de la perspective. Quelques ouvrages qui déterminent assez bien ce qu'a été la démarche de l'école des Annales, c'est bien sûr... La fameuse dynamique du capitalisme de Fernand Braudel, c'est le grand ouvrage de Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme. C'est un ouvrage absolument remarquable que plus personne ne connaît aujourd'hui, qui s'appelle L'histoire économique et sociale du monde. C'est un ouvrage en 6 tomes qui a été fait sous la direction de Pierre Léon. Alors, les tomes sont inégaux, hein, chèrement Colin, mais il y a un tome sur 1439 qui est absolument remarquable. Et puis, bien sûr, Immanuel Wallerstein, le fils spirituel de Fernand Braudel. C'est assez intéressant parce que Fernand Braudel, pour moi, c'est un marxiste défroqué. Alors, je ne sais pas si vous partagerez cet avis. C'est défroqué au sens où, finalement, dans la dynamique du capitalisme, il a un double regard sur le capitalisme. À la fois, c'est un prédateur, le capitalisme, mais en même temps, pour Fernand Braudel, c'est un prédateur utile. C'est un prédateur utile parce qu'il décrit finalement l'économie comme une dynamique, hein, la fameuse dynamique du capitalisme, entre deux étages, entre l'étage du marché, ce qu'il appelle économie dans civilisation matérielle, économie, capitalisme, là où jaillit l'innovation, hein, le marché plutôt concurrentiel, et de l'autre côté, vous remarquerez, 15e, 18e siècle. Pour lui, le capitalisme, il n'est pas avec la révolution industrielle, hein. Il naît autour du 15e siècle. Donc une dynamique sans cesse entre l'étage de l'économie d'où jaillit l'innovation et l'étage du capitalisme qui fond sur l'innovation, parce que pour développer une innovation, il faut des capitaux importants qu'en général le créateur n'a pas, et du coup qui récupère et qui développe à son profit et qui en tire l'essentiel des profits. Et évidemment, finit toujours par sourdre, par jaillir de l'économie une nouvelle innovation qui va remettre en cause complètement la situation de monopole qui est venue de la sphère capitaliste. Et dans cette dynamique sans fin, le capitalisme trouverait pour Fernand Braudel son véritable moteur, et il n'y aurait finalement qu'un seul vainqueur qui serait le consommateur. Donc, quelqu'un qui d'un côté se dit marxiste et a été nourri à la mamelle du marxisme et de l'autre côté a une sorte d'admiration-répulsion pour le capitalisme, vous voyez qu'on est dans l'ambiguïté. Et les SES reflètent assez bien, je trouve, cette ambiguïté. Alors je saute brutalement à la période presque contemporaine, puisque parmi donc les reproches qui sont faits à l'enseignement d'économie des SES, il y a un reproche qui tourne autour de la partialité et du manque de scientificité des manuels scolaires. Et une commission présidée par le professeur Guenry a été chargée en 2008 d'évaluer les manuels scolaires. Et le rapport Guenry tire trois grands constats sur les manuels scolaires. Le premier, c'est que les manuels scolaires sont conçus comme des supports de pédagogie active. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les manuels scolaires sont composés de documents, pour l'essentiel, qui, au sein de chaque chapitre. Vous avez des chapitres qui sont définis, bien sûr, par les programmes officiels. Bien, vous n'avez pas un cours à proprement parler, mais vous avez des documents qui permettent au professeur d'élaborer son cours en faisant travailler les élèves sur des documents. Ce qui veut dire concrètement que le bouquin pour un élève ne sert à rien. Enfin, il ne sert à rien, entendons-nous bien. Je veux dire que quelqu'un qui voudrait travailler chez lui pour reprendre un cours et pour apprendre, oh mon Dieu, quel mauvais mot j'ai prononcé là, ne trouverait pas dans les livres d'origine de définition des termes. Ne trouverait pas l'essentiel, rien à voir avec un bouquin d'histoire traditionnel. Vous avez un cours rédigé, rien à voir avec un livre de philo, je suppose, enfin d'histoire des idées philosophiques, pardon, où vous avez un cours qui est complètement rédigé. Là, pas du tout. Ce sont des manuels assez originaux de ce point de vue-là, avec l'idée que dès le départ, il fallait développer une pédagogie active, qui peut être discutable d'ailleurs. Hein, c'est... Deuxième remarque que faisait le rapport de Guenry, la qualité des manuels, disait-il, ce sont ces termes, hein, j'aurais dû le mettre entre guillemets, ce sont des citations. La qualité des manuels est variable. Certains, disent-ils, sont globalement bons, d'autres ne le sont pas. L'information, vous voyez que ça prend des précautions quand même, le rapport Guenry. L'information qu'ils apportent, qui peut être remarquable, est-elle aussi de qualité inégale? Parlons clair. Il y a dans les manuels scolaires une surreprésentation d'articles d'alternatives économiques. Vous comprenez assez bien où se situe l'alternative économique, et ça vous montre donc un petit peu quel peut être le point de vue d'un certain nombre d'articles. Enfin, troisièmement, et ça c'est sans doute le plus grave, l'exigence de laïcité intellectuelle fait l'objet d'une attention variable. Donc en termes galants, ces choses-là sont mises. Elle est exceptionnellement, mais alors inacceptablement absente. Elle est le plus souvent assumée, mais plutôt maladroitement concrétisée, puis là vient le pire. Présentation des grands débats intellectuels du passé, c'est moi qui ai mis en gras, hein, qui ne les replace pas convenablement de la dynamique d'accumulation des savoirs, un ton qui peut être systématiquement négatif et parfois péremptoire. Il en tire trois remarques critiques. La première remarque critique, c'est le caractère encyclopédique des programmes, et puis vous connaissez tous le vieux proverbe « qui trop embrasse, mal étreint », et quand on veut traiter d'absolument de tout, on arrive à ne traiter finalement de rien. Et ce que dit le rapport Guenry, la commission Guenry, c'est que une discipline, ça repose sur des outils conceptuels et analytiques de base. Et ces outils conceptuels et analytiques de base doivent être acquis, ce qui visiblement ne sont pas toujours le cas en sciences économiques et sociales. Ce que dit aussi le rapport Guenry, c'est qu'il y a un va-et-vient permanent entre la théorie d'un côté et les faits de l'autre. Et que ce va-et-vient permanent, il n'est pas toujours présent non plus dans les enseignements de SES. Alors, cette ambition démesurée des programmes, dit le rapport Guenry, évidemment a conduit à ratisser trop large, et donc elle est contre-productive. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle est contre-productive à la fois sur la formation intellectuelle, mais aussi contre-productive pour la formation des citoyens. Et du coup, un souci respectable d'équilibre conduit donc ainsi à mettre sur le même plan des discours au statut scientifique très inégaux. Conclusion, la porte est ouverte à un relativisme qui, suggérant que toutes les opinions se valent, va au rebours d'une formation du choix du citoyen. Le constat est quand même assez terrifiant, hein. Surtout qu'il est doublé d'un autre constat, celui qui était fait la même année 2008 par l'Académie des sciences morales. Et ce constat, lui, est probablement encore pire, puis j'en donnerai peut-être quelques exemples. Alors, l'Académie des sciences morales, vous voyez que la commission qui a été chargée d'étudier les manuels scolaires et de se prononcer sur l'enseignement des SES, c'est quand même des gens qui méritent quelque peu le respect. Les noms que j'ai mis en gras, ce sont des gens qui ont pris un manuel scolaire, Nathan, Larousse, etc., et qui ont passé ce manuel scolaire au crible de leur analyse critique. Et le professeur Pierre-André Schiapori, donc lui aussi, qui a été professeur à Polytechnique, directeur de recherche, professeur d'économie à l'ENSAE, a été chargé de faire la synthèse du rapport de l'Académie des sciences morales. Et cette synthèse dit des choses assez terribles. C'est Pierre-André Schiapori qui parle. Hein. Ce groupe de travail a rapidement dégagé un consensus sur des réflexions assez préoccupantes. À partir des programmes établis, il paraît difficile d'atteindre l'un des deux objectifs assignés à cet enseignement, apporter des connaissances de base préparant les élèves à des études universitaires ultérieures dans les disciplines concernées, tout ça faute de partir de concepts simples et de mécanismes fondamentaux sur lesquels repose la science économique. L'approche par thème est privilégiée, ce qui impose une pluridisciplinarité qui n'est guère concevable en l'absence de toute base disciplinaire dans les différentes sciences concernées. Moi, c'est une chose qui m'a toujours surprise dans l'enseignement des SES, c'est qu'on veut à la fois porter un regard, appeler d'autres sciences, ce qui peut être parfaitement utile quand vous maîtrisez vous-même votre propre discipline, mais appeler d'autres disciplines à porter un regard sur une discipline que vous enseignez quand vous ne maîtrisez pas vous-même cette discipline, c'est quand même un petit peu paradoxal, en tout cas me semble-t-il. Viennent d'autres critiques, notamment que le deuxième objectif, premier objectif, donc préparer des études supérieures. Deuxième objectif, concourir à la formation des citoyens aptes à saisir les enjeux des choix économiques et sociaux. Ce qui, me semble-t-il, est assez fondamental dans le monde d'aujourd'hui. Je repense toujours à un petit ouvrage qui s'appelle « La fin du social-colbertisme ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui avait été écrit par Jean-Baptiste Le Foucault. Qui était à l'époque commissaire général du plan, je crois. Et dans la fin du social-colbertisme, Jean-Baptiste de Foucault mettait déjà en évidence les caractéristiques du modèle français. Caractéristiques qu'il présentait aujourd'hui comme autant de faiblesses, qui avaient pu être des forces, mais qui étaient des faiblesses. Et dans l'une des quatre caractéristiques majeures, selon Jean-Baptiste de Foucault, il y avait la faiblesse de la culture économique des Français. Chaque année, aux journées de l'économie à Lyon, faites sous l'égide de l'ENS Lyon, il y a pour commencer un petit sondage sur la culture économique des Français. Et ce sondage est assez effrayant. Il montre une inculture et une incompréhension des mécanismes économiques qui est absolument terrifiant. Ce qui fait qu'on peut toujours penser que tout est possible, qu'on peut toujours admettre que ce que la CGT disait en 1974, 15 ou 16, si je me souviens bien, il existe un trésor caché du patronat, les patrons peuvent payer, alors que le taux de marge n'avait quasiment jamais été aussi bas, que la crise avait dégradé la rentabilité des entreprises. En fait, la crise n'était qu'une illusion, puisque, en réalité, il existait un trésor caché du patronat. Deuxième objectif, c'est donc que les citoyens soient aptes à saisir les enjeux des choix économiques et sociaux. Du coup, les manuels, ça donne quoi ? Des ouvrages qui donnent de l'économie de la société française un biais très pessimiste, avec un ton négatif, compassionnel. Des choix de textes et des illustrations relevés de présupposés, pour ne pas, et souvent des présupposés idéologiques, notamment vis-à-vis du marché. Et enfin, l'analyse, au lieu d'être une analyse, ça se réduisait souvent à l'expression d'une opinion. Avec ce constat terrible, c'est que tout cela risque d'inculquer aux élèves l'idée qu'on peut traiter de problèmes complexes à partir d'analyses superficielles, si tant est qu'il s'agit d'ailleurs d'analyses. Et donc l'enseignement des SES dans le secondaire, c'est la conclusion, est gravement défectueux. Le contenu des enseignements n'a qu'un rapport lointain avec la science économique telle qu'elle est pratiquée dans les universités. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'il y a ce que je crois tout le monde, ce à quoi tout le monde adhère, je crois, à peu près aujourd'hui, un ensemble de savoirs de base qui font consensus auprès des économistes. Et ce savoir de base, peut-être que la première chose qu'on devrait faire, c'est commencer par l'enseigner aux élèves, plutôt que leur enseigner une vision keynésienne ou une vision libérale de l'économie. C'est terrible de dire, il est difficile de ne pas conclure qu'en l'état actuel, ce savoir, donc de base auquel se fait référence, n'est pour l'essentiel pas communiqué aux élèves. Bien pire, l'enseignement sous sa forme présente tend probablement à répandre le sentiment qu'un tel savoir est ou inexistant ou inutile. Alors, ce qui est intéressant, c'est de le rapprocher du point de vue de l'inspection générale. Enfin, ce n'est pas forcément le point de vue de tout l'inspection générale. C'est le point de vue essentiellement de Marc Montousset, mais qui, à l'époque où il a écrit ce texte, était doyen de l'inspection générale de SES. Donc, a priori, on peut penser que c'est une parole autorisée. Ce texte date, si je ne me trompe, j'ai dû le mettre en référence derrière, il date de 2004, effectivement. 2004, il a fallu attendre donc 2018, pour voir apparaître des nouveaux programmes d'économie de SES, mais de la partie économique de SES, qui prennent en compte un certain nombre de revendications. Et vous voyez qu'il y a un accord finalement entre ce que disaient Roger Guenry, soit Pierre-André là-dessus, puisque dans le bouquin de Gregory Mankiw, qui fait aujourd'hui quasiment autorité, c'est le Samuelson actuel, Gregory Mankiw, qui définit 10 principes de l'économie sur lesquels il y a à peu près consensus aujourd'hui. Je vous passe rapidement les principes, je peux mettre ça à votre disposition si vous le souhaitez, mais c'est l'idée que effectivement, il y a aujourd'hui à peu près consensus sur un certain nombre de principes qui ne sont pas susceptibles, enfin qui n'ont rien à voir avec l'idéologie, quoi, qui sont une évidence quasiment absolue. Et ce qu'écrivait Marc Montousset en 2004, c'est que les désaccords entre économistes existent, mais ils portent en partie sur donc l'économie normative plus que sur l'économie descriptive, bien évidemment. Et donc, une grande partie des propositions de la science économique ne se prête pas au débat. Cette partie qui n'est justement pas enseignée, enfin qui n'était justement pas enseignée. Ce que disait Marc Montousset à l'époque, c'est que nos élèves ont besoin de grilles de lecture simples, de cadres précis pour structurer leurs pensées. Et que, au lieu de leur fournir ça, on bâtit ce cadre autour d'une opposition entre libéraux et keynésiens. Donc on part d'une grille de lecture de l'économie, qui n'est évidemment pas celle des programmes officiels, mais qui est celle qu'utilisent beaucoup aujourd'hui d'enseignants. C'est une opposition de base, dit Montousset, qu'on retrouve dans de nombreuses problématiques, et notamment dans les dissertations de baccalauréat. Vous trouvez beaucoup de dissertations de bac qui sont toujours construites sur, de la même façon. Grand 1, les libéraux pensent que. Grand 2, mais les keynésiens. Et vous vous en doutez que si c'est présenté comme ça, c'est qu'en général, le premier, c'est le pas bien, et le deuxième, c'est celui qu'il faut retenir. Et donc ça simplifie excessivement des débats théoriques et ça néglige les nombreux points qui faisaient consensus. Alors il en prend plusieurs exemples, dont celle de l'investissement. Montousset explique que opposer d'un côté, dans une vision complètement réductrice, les keynésiens pour qui l'investissement a pour premier déterminant la demande effective et donc qui ignorerait le rôle de taux d'intérêt et de la rentabilité de l'investissement, c'est qu'il est une foutaise sans nom, puisqu'il suffit d'avoir lu la théorie générale pour se rendre compte de l'importance que Keynes donne au taux d'intérêt. Mais c'est toute la différence entre un déterminant premier. C'est sûr que si une entreprise n'a pas de demande, même si elle aura un investissement qui serait rentable si elle possédait une demande, n'investira évidemment pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va négliger la question de la rentabilité de l'investissement et donc du coût d'obtention du capital qui est le taux d'intérêt. Et puis d'un autre côté, il y aurait une vision néoclassique ou une vision libérale, entre guillemets. C'est d'ailleurs amusant de voir que néoclassique est toujours confondu avec libéral, comme si on était sur le même champ. D'un côté, on est sur un champ plus politique et de l'autre côté, sur un champ plus théorique. Et donc, pour qui, finalement, l'investissement ne dépendrait que des taux d'intérêt en ignorant la demande, ce qui est évidemment tout aussi faux du côté de la pensée néoclassique que c'est faux du côté de la pensée keynésienne. Donc, prendre un angle d'attaque de ce type, c'est penser finalement que tout se vaut et que c'est une question d'opinion et que finalement, selon l'endroit où l'on se range, eh bien, telle théorie est vraie et telle théorie est fausse. En 2004, l'inspection générale écrivait « Il faut dispenser un enseignement rigoureux, fondé sur le socle des connaissances de base et des méthodes d'analyse acceptées et reconnues par les spécialistes de la communication scientifique ». Et ce qu'il dit ensuite, c'est que l'étude des désaccords et donc du débat théorique relève d'un niveau supérieur de complexité et ne peut être envisagé qu'après que les élèves aient assimilé les concepts et mécanismes fondamentaux. Alors, quant à l'épistémologie, n'en parlons même pas. J'ai essayé de conclure sur une note optimiste, ce qui ne va pas de soi, compte tenu de ce que j'ai dit précédemment. Deux choses qui me rendent un peu optimiste. D'abord, c'est que les programmes actuels qui s'appliquent en première cette année, qui vont s'appliquer en terminale l'année prochaine, ont été élaborés par une commission sous la présidence de Philippe Aguillon. Et ces programmes ont à mon sens, deux innovations majeures et deux ruptures majeures par rapport à ce qui précédait. Premièrement, ils distinguent clairement ce qui relève de l'économie et de la sociologie, même si en dernier, on termine par quelque chose qui s'appelle objet commun, et on essaie de prendre un thème sur lequel l'entreprise, par exemple, notamment, sur lequel on montre qu'il peut y avoir un double regard, le regard de l'économiste et l'égard du sociologue, et que ce sont pas des... Ils ne disent pas la même chose et ils se complètent. Première chose qui me rend un peu optimiste. Deuxième chose qui me rend un peu optimiste, c'est que ce qui fait consensus en économie relève plus de la microéconomie que de la macroéconomie. Et la microéconomie qui était très largement absente des programmes de première et de terminale, eh bien, elle fait une entrée en force dans le programme de première. Et des concepts de base de microéconomie devront maintenant être appris par les élèves. Ce qui d'ailleurs pose un problème avec la formation des enseignants qui, pour la majorité d'entre eux, n'ont pas de formation initiale aux sciences économiques. Ils ont une formation initiale de sociologue. Dans le meilleur des cas ou dans le moins mauvais, ils ont fait Sciences Po. Seule une petite partie d'entre eux, je crois que c'est 35 ou 38%, ont fait des études initiales d'économie. Deuxième chose qui me rend un peu plus optimiste, c'est que y a une nouvelle génération de profs de SES quand même. Hein. Le corps s'est rajeuni. Et du coup, cette génération-là, elle est beaucoup plus éloignée des débats idéologiques que la génération initiale.